Chapitre 4. Comment s'engagea la bataille. Savez-vous ce que pourrait fournir de lignes et de pages la description d'un bal comme celui de l'hôtel de Claire? La plume en frissonne et le papier tout blême se résigne d'avance. Tant de festons, lecteurs bienveillants, et tant de sourires, tant d'astragales et tant de fleurs, assez de guipures authentiques pour habiller une cathédrale, assez de diamants pour aveugler tout un peuple de conscience jolie, et des yeux dont chaque paire vaut tous ses diamants, 100 paires de ses yeux, le velours des masques allumant les prunelles et lissant le satin rose des joues demi-cachées, le brasier des lèvres rougissant sous la dentelle propice, les cheveux blonds baignant les rangs de perles ou de saphirs, les cheveux noirs ruisselant sous les rubis et le corail, la poudre aux discrets parfums, la gaze aux aveux indiscrets, toutes ces hardies exhibitions de marbre de Paros, d'ivoire ou de simple chair humaine, qui rendraient un tableau obscène, mais qui, heureusement, dans un bal, ne sont même pas un péché véniel. Tout le monde a décrit les somptueuses cohues, tout le monde, hélas, excepté ceux qui sauraient opposer sur leur palette savante les vraies lumières aux vraies ombres. Je n'ai jamais lu, moi qui parle, que les hosannas de quelques fades admirateurs étonnés de se trouver à pareille fête, ou les amères calomnies d'une plume de laquais broyant son fiel du mauvais côté de la porte, le côté de l'antichambre. Voulez-vous connaître mon avis? Je crois que ces choses ne se décrivent pas. Il y a trop de soleil là-dedans. Le clair-obscur y manque. Aucun trait d'ombre vigoureuse n'y vient faire saillir les motifs du tableau. Le jour vient de partout. Et les voyageurs ont dit que, sous le ciel meurtrier de l'Inde, la nuit naît de l'éblouissement. J'achève ma confidence. D'écrire ces choses, j'entends sérieusement d'écrire, c'est avouer déjà qu'on ne les sait pas bien. On pourrait à la rigueur se sauver par le ridicule, qui est aussi une ombre, mais nous sommes en plein faubourg Saint-Germain, un pays démissionnaire qui a gardé de son glorieux passé, à tout le moins, la science du bal. Est-ce d'ailleurs cette science? C'est probable. Elle est là, c'est certain. Le ridicule y doit exister, mais noyé, mais étouffé sous la belle apparence de l'ensemble. Pour le trouver, il faut fouiller les coins. Et il est tard dans notre histoire. Le dénouement, suspendu comme une invisible épée, menace déjà vaguement. Il y a une bataille dans l'air dont le chant nous échappe encore et les armes et les champions eux-mêmes, mais qui s'annonce par de mystérieuses oppressions, comme l'orage pèse déjà sur les poitrines nerveuses en plein milieu d'un splendide jour d'été. Nous savons que dans ce bal qui était magnifique et où dansait la meilleure moitié de la salle des croisades, car la princesse d'Epstein tenait étroitement aux plus hautes maisons du faubourg, nous savons qu'il y avait un élément vil, une intrusion effrontée. Nous savons qu'une femme rôdait là, beauté de reine, cœur de lionne, prête à défendre son rêve ambitieux, comme une lionne justement protège ses lionceaux avec les dents, avec les griffes. Nous savons que cette femme, poussant le calcul jusqu'au génie, mais l'audace jusqu'à la démence, allait lancer ici, sur le tapis, quelque bizarre et prodigieux va-tout. Il ne faut plus décrire, il faut raconter. Aussi bien le récit décrira, peut-être. À 1 heure du matin, le coup d'œil était véritablement merveilleux, et Tolbeck, le vrai juge, avait déclaré du haut de son orchestre que c'était un bal « première qualité ». La comtesse et la princesse, seules démasquées au milieu de tous ces visages de soie, avaient fait jusqu'alors les honneurs avec une grâce charmante. Ce fut à 1 heure du matin qu'elles mirent leurs masques toutes les deux pour se mêler à la fête et que le dernier acte de notre drame commença. Il y avait en ce moment un couple qui excitait très vivement l'attention. Deux jeunes gens en domino noir, l'un svelte et fièrement proportionné, l'autre portant un embonpoint précoce qui n'ôtait rien à la grâce de sa taille et lui donnait une sorte de majesté. Ils avaient des demi-masques sans barbe, palmatiques de soie s'entr'ouvraient, on voyait à leur poitrine de longues brochettes d'ordres étroits. Des habits noirs, le fils de Louis XVII a joué un rôle. Dans le présent récit, il ne fera que passer. Sous le masque, celui des deux jeunes gens qui étaient gros, laissait deviner un profil absolument bourbonien, et cela occupait beaucoup ce monde pour qui le roi ne s'appela jamais Louis-Philippe. On avait ici peu de sympathie pour le prétendu Louis XVII et son fils, monsieur le duc de B. Il n'inspirait que de la curiosité, mais il inspirait une énorme curiosité. Son compagnon, celui qui avait une taille élancée, paraissait pour la première fois dans un salon parisien. Il avait nom le prince Orlan Polecchini. Il venait de Rome où il avait, disait-on, manqué un grand avenir ecclésiastique en refusant de prononcer des vœux et allait près du roi de Naples qui lui donnait un grade dans ses gardes du corps. Nul ne saurait expliquer comment ni pourquoi aujourd'hui, justement, la romanesque histoire de la nuit du Mardi Gras, oubliée depuis 10 ans et tout à coup ressuscitée, allait et venait dans les nobles salons de l'hôtel de Clare comme une nouvelle toute fraîche. Chacun la racontait, et cela donnait un certain à-propos à deux costumes de buridan qui eussent été cruellement démodés sans cela. Nous reviendrons à ces costumes de buridan, portés sans doute par des antiquaires effrontés qui exhumaient ainsi une mode vieille de 11 années. Ce n'étaient pas les premiers venus, car l'un dansait en ce moment avec la princesse Nita d'Epstein, tandis que l'autre promenait madame la comtesse du Prahu de Clare. Parlons d'abord du prince Orlan Polecchini, garde du corps du roi de Naples. Et figurez-vous que notre joli vicomte Annibal Gioja des Marquis Palante, avec son sourire blanc, ses yeux noirs et ses cheveux mieux vernis que des escarpins, avait nourri jusqu'à ce dernier moment l'espoir de jouer un grand rôle, le rôle principal de la comédie, le rôle que le bon Jaffray et le roi Comérol avaient offert à Monsieur Coeur, le rôle que tenait maintenant le prince Orlan Polecchini. Car c'était comme au théâtre, où parfois, par suite de la démission des vieux ou de l'impuissance des illustres, un débutant surgit aux dernières répétitions et s'empare de l'affiche. Le prince Polecchini, cet inconnu, écartait sans effort Gioja et Monsieur Coeur. Il était duc de Clare par la grâce de Marguerite. Marguerite était ici supérieurement soutenue. Elle avait fait la leçon aux membres de l'ancienne étude de banc et à d'autres. On lui obéissait à demi-mot. Annibal Gioja lui-même, sans répugnance apparente, sinon sans regret, travaillait pour son rival victorieux. Marguerite avait une armée nombreuse et bien disciplinée. Mais que sont les soldats d'une pareille armée auprès de l'auxiliaire géant qui s'appelle Le Monde, énorme et lourd poisson, possédant tout l'esprit, toute l'intelligence, toute la malice de l'univers, mais toujours prêt à mordre au plus grossier hameçon? Les gens qui combattent à leur insu sont les meilleurs de toutes les troupes. Cette armée-là n'inspire aucun soupçon, parce qu'elle n'en mérite aucun. Elle est honnête, noble, fière, candide. Elle manœuvre à 100 coudées au-dessus des viles intrigues qu'elle sert, mais elle les sert, et d'autant plus puissamment qu'elle n'est jamais complice. Ceux qui savent jouer de cet orgue puissant et terrible qui en ont tout le monde obtiennent de magiques résultats. À mesure que les touches du vivant clavier sonnaient sous un doigt invisible et habile, les histoires du passé revenaient pour ceux qui les connaissaient vaguement, pour ceux aussi qui jamais n'en avaient entendu parler. Dans ce monde où nous sommes, les choses les plus scabreuses se disent aisément. La langue du mépris est riche. Ils ont une façon aisée et toute naturelle d'exprimer les idées devant lesquelles nos plumes reculent. C'est simple, cela ne révolte pas. Les jeunes filles l'écoutent froidement. Il semble qu'on parle de choses scientifiques ou chinoises. On parlait donc de cette maison du boulevard Montparnasse, d'où sortit l'héritier de Clare pour être poignardé. On appelait presque la maîtresse de cette maison par son vrai titre. C'est du latin que cette langue noble. Elle nomme un chat, mais de quel ton? Et c'était, je vous l'affirme, d'un intérêt profond. Toutes les péripéties de cette nuit lugubre y passaient. On montait les 5 étages de la pauvre duchesse Thérèse. On entrait au couvent de Bon Secours, derrière la civière qui portait le blessé. on voyait à son chevet le duc Guillaume, la mère Françoise d'Assise, et cet enfant qui était maintenant une radieuse jeune fille, la princesse Nita d'Epstein. Le duc et la religieuse étaient morts. La princesse d'Epstein allait-elle reconnaître le blessé de bon secours et lui rendre son opulent héritage? Il y avait à tout prendre dénouement possible et heureux, des fiançailles. Ils étaient beaux tous deux, jeunes, riches, nobles. Mais pourquoi s'était-il enfui du couvent de bon secours autrefois? Pourquoi était-il allé se perdre en Italie? Que signifiait ce nom de Policheni? Joie des questions insolubles, plaisir des imbroglios dramatiques, volupté inhérente à ces problèmes posés selon l'art qui sont offerts et résolus 200 fois de suite sur nos théâtres populaires. Tout est spectacle là-bas et, au fond, le peuple noble est un peuple comme l'autre. Il a ses curiosités propres, ses naïvetés et ses commérages. Quelques minutes après 1 heure du matin, cette charmante princesse Nita d'Epstein dansait donc un quadrille avec l'un des deux seuls buridans qui fussent dans les salons de Claire, tandis que l'autre buridan promenait Madame la Comtesse. Nous sommes forcés de nous occuper tout d'abord de ces deux buridans, puisque l'entrée d'un très illustre avocat fit en ce moment sensation. Nous nommerons l'illustre avocat Monsieur Mercier, permettant à chacun de reconnaître, sous cet humble pseudonyme, une des gloires les plus éclatantes du barreau français. Nous ajouterons seulement que sa présence donna un intérêt plus vif au bruit qui courait, d'autant que le jeune prince Policheni, quittant le bras du duc de B, sur un signe de la comtesse, fut incontinent présenté à Monsieur Mercier, qui l'entraîna dans une embrasure. L'affaire s'engageait judiciairement. Ce garde du corps du roi de Naples était-il assez puissant déjà pour que Madame la comtesse tentât un compromis? Ceux qui prétendaient savoir le fond des choses, et cette classe est toujours assez nombreuse dans de pareilles foules, souriaient avec suffisance et prononçaient ce mot « procès, procès inévitable ». Il y avait un autre héritier de Claire, un Louis XVII aussi, de cette royauté privée, un personnage mystérieux, romanesque, impossible, un monsieur cœur qui peignait des enseignes et des tableaux pour messieurs les artistes en foire. Une aventure de l'autre monde, celle-là, et à laquelle aucune personne raisonnable ne voulait entendre, excepté cette bonne dame là-bas, marquise douairière de la Roche-Garou, qui était devenue pauvre à force de croire. Elle avait cru, de compte fait, à 13 Louis XVII différents, qui lui avaient coûté chacun 1/13 de son douaire. Elle avait cru à 6 000 or si cet artiste était venu chez elle lui dire « Je suis Agamemnon ». Au faubourg Saint-Germain, la douairière de la Roche-Garou s'appelle Légion, les escrocs savent cela et affluent. Le premier buridan, celui qui avait l'honneur très envié de promener Madame la comtesse du Bréhu de Claire, était Léon Malvois. Il semblait calme, il était fait désormais à sa fièvre. « Eh bien, lui dit la comtesse en sortant de la galerie, où était l'orchestre, ai-je accompli ma promesse? Avez-vous entendu parler du juge d'instruction ?»« Non, répondit le jeune notaire, je suis maintenant fixé sur le fait que vous tenez mon sort entre vos mains. » « C'est déjà quelque chose, » murmura Marguerite, en riant et en distribuant des signes de tête à la ronde, car elle voulait être reconnue et poser en quelque sorte son identité sous ce costume de volcan. « Je ne suis pas bien méchante, vous savez, et j'ai conservé un grand faible pour vous. Pourquoi votre sœur n'est-elle pas venue ?»« Elle s'est trouvée malade au moment de partir, » répliqua Léon avec embarras. La comtesse resta un instant pensive, puis elle dit « C'est une charmante jeune personne. Peut-être vaut-il mieux, en effet, qu'elle ne soit point mêlée à tout ceci. Vous êtes-vous enfin rencontré avec notre fameux monsieur Cœur ?»« Il m'a fait 3 visites, repartit Léon. Je suis allé le voir un grand nombre de fois. Il semble que le hasard s'en mêle et nous sépare. » « Qui sait ?» murmura la comtesse avec une significative lenteur. « Vous ne vous trouverez peut-être que trop tôt en face l'un de l'autre. Je vous l'ai déjà dit, je suis pour vous deux une manière de camarade. Je ne voudrais pas qu'il vous arrive un malheur, ni à un ni à l'autre. » Léon ne répondit point. Vous ne me demandez pas des nouvelles de monsieur le comte? Reprit Marguerite. On le dit bien souffrant, murmura Léon, qui détourna les yeux. Ah, pas tant que cela. Nous avons mis la main sur un charlatan qui le ressuscite. C'est étonnant comme ces imposteurs font durer ceux qui glissent entre les doigts des médecins sérieux. Vous connaissez le docteur Lenoir?
Le docteur Abel Lenoir n'est pas un charlatan, madame, répondit Léon. Je ne sais pas à Paris de réputation plus solide et plus honorable que la sienne.
Moi, je l'appelle charlatan, répliqua la comtesse, parce qu'il guérit. Ne voyez-vous pas, Malvois, que je suis très gai et qu'au fond, j'aime tout bourgeoisement mon pauvre Joulou?
Il eut encore un silence. Léon tressaillit tout à coup.
Est-elle assez délicieuse? Murmura la comtesse en suivant la direction de son regard. Léon s'était arrêté, il avait comme un éblouissement. Nita glissait devant ses yeux, Nita, le nuage d'été. Elle dansait avec l'autre Buridan qui était masqué comme Léon lui-même. Les deux Buridans se regardèrent à travers les trous de la soie.
« Ah, vous m'avez reconnu, monsieur mon notaire, » dit Nita en riant et en rougissant aussi. Du moins son danseur crut-il voir le sang lui monter aux joues.
« Rose m'avait trahi, je vois cela, mais elle vous a trahi, de même. Je viens de recevoir une lettre d'elle, une lettre mystérieuse, où je n'ai rien compris, sinon qu'elle est malade. Est-ce bien réel, cette maladie ?»«
Bien réel, » répondit Léon, qui regardait toujours le cavalier de Nita. Le cavalier de Nita regardait Marguerite. Il offrit sa main à la princesse d'Epstein pour la figure qui continuait.
« C'est monsieur de Malvois, » dit-il en menant sa danseuse.
« Oui, » répondit Nita, « vous connaissez sa sœur, ma meilleure amie. »«
Je le connais, lui aussi, » murmura le Buridan avec un singulier accent. Marguerite et l'autre Buridan s'éloignaient. Marguerite dit,
« Mademoiselle de Malvois a eu tort d'écrire à Nita une lettre mystérieuse. Que signifie cela? Je fais de mon mieux, mon pauvre Léon, mais si votre sœur vient se jeter à la traverse, tant pis pour vous. »«
Tant pis pour moi, » répéta le jeune notaire, « quoi qu'il arrive, tant pis pour moi. J'ai comme un pressentiment qui écrase ma pensée. »
Et tout cela au moment de gagner le plus beau de tous les quins à la noterie, s'écria la comtesse. Nous avons monsieur Mercier, vous savez.
À quoi vous servira, monsieur Mercier?
Voyons, fit nettement la comtesse, qui s'arrêta tout d'un coup. Vous ne demandez que Nita, n'est-ce pas? Vous n'avez pas la prétention d'emporter sous votre bras la succession de Claire.
Nita, murmura Léon, dont les mains tremblantes se joignirent malgré lui. Oh, si j'espérais ce bonheur impossible.
La comtesse éclata de rire. Il y a donc encore des amoureux d'opéra comique, dit-elle. Avez-vous des yeux? L'avez-vous vue changer de couleur quand elle vous a regardé?
Nita, répéta Léon, je n'ai rien vu. Je sais que je me laisse glisser sur une pente folle.
« Oh, les lâches amoureux !» fit Marguerite, qui lui secoua le bras avec une impatience admirablement jouée. « Les poltrons du sentiment, les troubadours timides ! Il faudra que la malheureuse enfant monte sur un toit pour crier aux quatre coins du ciel « J'aime monsieur Léon Malvois, quoi qu'il ait l'indignité d'être notaire !»«
Ne raillez pas, madame, » murmura Léon, « je souffre mortellement. »
« Mais pourquoi souffrez-vous, puisqu'on vous affirme ?»
Léon l'interrompit. « Je souffre parce que votre moquerie a dit vrai, madame. Je ne croirai pas avant d'avoir entendu mon arrêt prononcé par Nita de Clare elle-même. »
Il y eut sous le masque de Marguerite un étrange mouvement de joie.
« Elle le prononcera, » dit-elle, d'un accent si résolu que le cœur de Léon tressaillit dans sa poitrine.
Avant la fin de cette fête, vous entendrez l'aveu tomber de sa propre bouche. Je m'y engage. Êtes-vous content?
Si Dieu veut cela, madame, répondit le jeune notaire, d'une voix étouffée, je vous appartiendrai, mon cœur et mon honneur.
Autour de ces étranges paroles, les quadrilles mêlaient leurs cérémonieuses figures. Et tout ce qui se peut dire de grave et de frivole se disait, avec accompagnement des motifs du domino noir qui était alors tout jeune et du préau clair qui sera jeune toujours.
On parlait du roman à la mode et du changement de ministère, de la partition promise par Meyerbeer, le drame de Victor Hugo, de la censure qui se torturait l'un l'autre, d'une duchesse qui avait trompé une danseuse, d'une danseuse qui allait s'éveiller duchesse. Dieu me pardonne, on parlait de la dot de la reine des Belges, un pauvre et 3 millions, le 10e de la dot d'une baronne d'Israël, et l'on trouvait cela trop cher pour une fille et pour une femme de roi. Et par-dessus tous ces bourdonnements, comme le dessin net d'une broderie, court parmi les milliers de fils entrelacés, l'histoire de Claire allait, brodée aussi, aussi entrelacée. Il y avait plus d'un quart d'heure que le grand avocat, M. Mercier, causait avec le prince Polichini. Veuillez penser qu'il s'agissait d'une restauration, sujet particulièrement cher à M. Mercier et à presque tous ceux qui étaient assemblés ici. Plus d'une mère parmi celles qui étaient douées de filles à placer noblement suivait déjà d'un œil diplomatique ce garde du corps du roi de Naples, et chrysalide inconnue qui allait naître papillon. Monsieur Cœur, le maître de l'atelier Cœur d'Acier, faisait rire. Un de Clercq, peindre des enseignes. Il avait tout le monde contre lui, excepté madame la marquise Douairière de La Roche-Garou, l'amie des Louis XVII passés, présents et futurs. Madame la comtesse traversait les salons en se dirigeant vers l'aile en retour qu'on appelait le billard et qui était située immédiatement au-dessous de l'appartement du comte, son mari. En arrivant au dernier boudoir, elle appela du doigt un maître de cérémonie et lui parla bas un instant. Celui-ci alla droit vers la porte du billard où quelques groupes se reposaient et causaient. La salle de jeu était dans l'aile opposée, à l'autre extrémité de la fête. À dater de ce moment, sans affectation aucune, le maître des cérémonies resta en sentinelle à la porte du boudoir. Il laissait sortir, mais il s'inclinait silencieusement devant ceux qui voulaient entrer en disant ces mots discrètement accentués. « Madame la comtesse vous prie de l'excuser. » On pensait ce qu'on voulait et on allait ailleurs. De cette façon, le billard se vida peu à peu parce qu'on en sortait et qu'on n'y entrait point. La comtesse et Léon de Malvois s'étaient éloignés. Au moment où ils reprenaient leur promenade en sens contraire, Léon demanda « Qui est ce Buridan qui danse avec elle ?»« Pauvre costume, répondit Marguerite, est-ce pour me rappeler le passé que vous l'avez choisi vous-même ?» Il y avait de la sévérité dans son accent. Léon n'y prit point garde et répéta « Qui est ce Buridan ?»« Un démodé, comme vous, je n'en sais rien. » « Monsieur Cœur est-il ici ?» interrogea encore le jeune notaire. « Je l'attends, répliqua Marguerite, mais je ne l'ai pas encore rencontré. » Le quadrille était fini. La princesse d'Epstein et son cavalier passèrent à quelques pas d'eux, se dirigeant vers le billard. Les deux Buridans échangèrent encore un regard. La comtesse dit « Je vais vous retenir un quadrille avec elle. Voulez-vous ? » À ce moment, Léon sentit la pression d'une main sur son bras. Il se retourna. Deux dominos noirs allaient lentement dans la foule, un homme et une femme. La femme dit à Léon « Prends garde, ne joue pas avec le feu. » Ceci pouvait être une allusion au volcan. « Mon feu ne brûle pas, beau masque !» répondit la comtesse gaiement. Léon cherchait et se demandait à qui appartenait cette voix qui ne lui était pas inconnue. Les deux dominos avaient disparu. La comtesse avec Léon, la princesse avec Roland, s'éloignèrent dans des directions opposées. À la porte du billard, où ils arrivèrent bientôt, Nita de Clercq et son Buridan ne trouvèrent point d'obstacle. La consigne n'était probablement pas pour eux. Le maître des cérémonies s'effaça dès qu'il les vit approcher. Ils entrèrent. Derrière eux, mais assez loin pour ne les avoir point vus, le domino noir qui avait dit à Léon « Ne joue pas avec le feu !» et son cavalier, masqué jusqu'au menton, voulurent pénétrer à leur tour dans l'aile réservée. Le maître des cérémonies, debout en travers de la porte, salua et dit « Madame la comtesse, vous prie de l'excuser. » Les deux dominos noirs échangèrent quelques mots à voix basse et s'éloignèrent. La comtesse, qui venait de quitter le bras de Léon en lui disant « à bientôt », appela d'un signe de tête son joli vicomte Hannibal et se dirigea vers la porte de la sortie. « Ils ne se rencontreront pas désormais, murmura-t-elle, j'y ai pourvu. » Puis elle ajouta, « Mademoiselle de Malvois est dans le bal, le docteur Lenoir aussi. C'est une bataille rangée. »